Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Que l'on compare les démocraties du début du XXe siècle à ce qu'elles sont devenues un siècle plus tard, on mesure les incontestables progrès en termes de droits de suffrage, d'éducation des citoyens, de capacité d'information. Toujours en débat, la démocratie est un processus et elle parvient difficilement à être une valeur d'exportation. On évoquait après la chute du mur de Berlin et de l'URSS le triomphe universelle de la démocratie politique jointe à l'universalisation de l'économie de marché. Trois décennies plus tard, on mesure le retour des régimes totalitaires. Le tableau des progrès de la démocratie doit être nuancé par ses échecs et reculs en dehors du monde occidental, ce qui représente la plus grande partie de l'humanité. La dynamique est inversée, la question de savoir si notre monde ne serait pas entré dans une phase de régression démocratique aux antipodes des espérances passées se pose réellement. Regard avec nos invités, Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace et rattachée au laboratoire Société Acteurs Gouvernement en Europe. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Buller, diplomate et ancien ambassadeur de France en Pologne entre 2012 et 2016. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales, professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas, rédacteur en chef de la revue Questions internationales et de son numéro « La démocratie à l'épreuve ». Bonjour.
Bonjour.
Démocratie sous tension en Inde, démocratie contrastée en Israël, interruption de la conversion à la démocratie ou restauration autoritaire en Russie, démocratie intermittente en Amérique latine, démocratie partisane en Pologne et en Hongrie, entre désenchantement et espérance démocratique en Afrique du Sud, interrogation sur le bilan de la démocratie en Turquie, reprise en main autoritaire au Moyen-Orient entre despotisme, populisme et démocratie en Iran, et cette question, Internet est-il contre la démocratie? Voilà pour quelques-uns des points analysés dans la revue Questions internationales qui témoignent bien de la difficulté de la mise en œuvre de la démocratie. L'actualité chinoise où la quête démocratique se voit tenue en échec depuis un siècle en est un exemple et le durcissement évident. Xi Jinping vient d'obtenir du 20e congrès du Parti communiste chinois des pouvoirs sans précédent. L'ancien président Hu Jintao, qui était en faveur de la démocratie intra-partie, a été évincé. Durcissement donc avec ce nouvel argument de la sécurité nationale qui serait en danger. Le concept n'est pas nouveau, mais il est désormais utilisé à toutes les sauces. La sécurité nationale comme élément central de l'avenir de la Chine, laquelle Chine s'est rapprochée de la Russie sur fond de confrontation avec l'Occident. L'entrée de la Chine dans la globalisation, Serge Sûr, ne l'avoue pas la démocratisation, mais l'échec de la transition démocratique ne date pas d'aujourd'hui.
Non, d'ailleurs, la Chine s'intitule « République démocratique de Chine », mais en fait, c'est une apparence tout à fait illusoire. Et le discours officiel est très différent. Il est tout de même celui de la méritocratie. Et la justification qui est donnée, et qui d'ailleurs est accompagnée de succès indéniables, c'est que la démocratie, eh bien, c'est un régime intermittent. Mmh. Parce que vous avez des élections qui interviennent à des périodes extrêmement rapprochées. Et donc, il est difficile d'avoir des vues à long terme. Et en outre, ces consultations sont liées à la démagogie, sont liées à la corruption. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut un pouvoir unique, concentré et qui puisse avoir des visions à long terme. Mmh. Et il faut bien reconnaître que cette conception, elle a permis une montée en puissance de la Chine pendant 40 ans, une montée en puissance pacifique et dont il y a très peu d'exemples historiques. Alors il semble que maintenant on est en train de changer de période. Parce que les positions actuelles de M. Xi orientent plutôt vers la confrontation et vers le risque du conflit. En tout cas, l'acceptation du risque du conflit, ce qui n'était pas du tout la stratégie de la Chine dans les décennies qui précédaient. Mais je peux peut-être ajouter que la démocratie, ça a toujours été un idéal et un combat. Mmh. Un idéal parce que voilà, l'idée du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est un slogan, c'est une revendication, mais dans la pratique, ça se heurte à beaucoup de difficultés et c'est pourquoi la démocratie doit toujours être protégée, développée, maintenue. Elle ne peut être maintenue que par les populations elles-mêmes. D'ailleurs, dans la démocratie, il faut bien distinguer deux choses. Il faut bien distinguer le principe de la souveraineté démocratique, qui signifie que les pouvoirs procèdent du peuple, et le gouvernement démocratique. Et le problème ou la tragédie de la démocratie, c'est qu'il faut un gouvernement. Et à partir du moment où vous avez un gouvernement, eh bien, ces rapports avec la population, avec le peuple, avec la volonté populaire, se posent. Et les solutions sont diverses. Et c'est pourquoi il n'y a pas une démocratie, mais des démocraties. Parce que ça peut être, pour citer les exemples les plus simples, ça peut être un régime parlementaire, ça peut être un régime présidentiel, ça peut être un régime d'assemblée. Et on a des formes différentes de démocratie. On ne peut pas comparer les institutions américaines et les institutions françaises, par exemple, ou les institutions britanniques, même si les trois relèvent de gouvernements démocratiques. En tout cas, qui s'affichent comme tels. Parce que on constate aussi que ces démocraties, elles sont imparfaites. Elles sont même très imparfaites et que beaucoup de leurs problèmes proviennent de leur imperfection, proviennent non pas du fait qu'elles sont démocratiques, mais du fait qu'elles ne sont pas assez démocratiques. Et je pense que la solution au problème de la démocratie se trouve dans la démocratie elle-même et non pas dans l'abandon de la démocratie.
Clémentine Fauconnier.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord dans le prolongement pour dire qu'en effet, la démocratie est un phénomène extrêmement multiple et qui procède d'un art du compromis et qui donne lieu aussi à toutes sortes de formules institutionnelles mouvante et toujours imparfaite. Si on compare par exemple le système britannique, qui est un système dit majoritaire, où donc on produit des très grandes majorités, mais qui laisse dans l'opposition une très grande partie des électeurs, tant que nous avons un Premier ministre au pouvoir, une force politique au pouvoir, ou si vous avez des systèmes dits consociatifs, par exemple comme la Belgique et la Suisse, qui cherchent à élargir au maximum la représentation, y compris dans la diversité linguistique, pour la Belgique et la Suisse notamment, on voit à quel point le phénomène démocratique, non seulement est imparfait, est un art du compromis, mais à chaque fois cherche, en effet, de façon différente et selon les contextes aussi extrêmement différents en termes aussi de diversité de population, par exemple, ou d'histoire, à trouver des arrangements institutionnels qui permettent de représenter au maximum la population dans sa diversité. Je suis très contente aussi de ce qui vient d'être dit, parce qu'en tant que prof, je le dis tout le temps à mes étudiants, que la citation de Lincoln, elle fait assez peu avancer le schmilblick d'une certaine façon, c'est-à-dire par le peuple, pour le peuple, du peuple, certes, mais une fois qu'on a dit ça, finalement, tout est encore à faire. C'est un idéal pour lequel tout est encore à faire. Et donc, si j'arrive à l'exemple russe, qui est celui que je connais le mieux, c'est la difficulté, je pense, qu'il y a eu pour la Russie et pour énormément d'autres pays, puisque la Russie, contrairement à la Chine, a bien connu un effondrement institutionnel majeur en 91, avec la fin de l'URSS. Et comme tout ce qu'on a appelé les pays de la troisième vague, donc cette centaine de pays qui ont été concernés par ce mouvement de démocratisation commencé en 74 et qui s'est poursuivi jusqu'au milieu des années 90, donc cette centaine de pays ont été portés par des aspirations démocratiques, mais avec à chaque fois une définition extrêmement floue et très idéalisée, très idéaliste de ce que c'est que la démocratie. Comme s'il suffisait d'avoir des aspirations démocratiques pour qu'on sache automatiquement, comme s'il suffisait d'organiser des élections pour qu'automatiquement on puisse avoir très rapidement des démocraties qui soient mises en place. Or, dans la plupart des cas, c'est pas ce qui s'est passé. Et surtout, à ce moment-là, ce qui a sans doute été oublié, enfin c'est les critiques qui ont été faites rétrospectivement, on a oublié aussi à quel point, par exemple, dans la vieille Europe de l'Ouest, la démocratie a été longue à mettre en place. Et toutes les conditions qu'il a fallu, les préconditions, on pourrait dire, qui ont été nécessaires. Or, pour la Russie, on s'est quand même attaqué à une triple transition énorme, à la fois un changement politique majeur extrêmement brutal, dans un pays qui n'avait pas de tradition démocratique. Deuxièmement, un changement économique extrêmement brutal aussi, le passage à une économie planifiée, à une économie de marché. Et troisièmement, l'effondrement d'un système qui était, on pourrait dire, associé à une forme d'empire, c'est-à-dire une transformation géopolitique aussi extrêmement importante.
On y reviendra dans le détail, bien sûr, avec vous, Clémentine Fauconnier. Votre commentaire, Pierre Buller, et ce qui s'est passé finalement dans les pays que vous connaissez bien, la Pologne, la Hongrie, la même chose qu'avec la Russie.
Je voudrais peut-être d'abord dire un mot sur la Chine, auquel vous nous avez invité. Là, il faut quand même nommer les choses par leur nom. La Chine est une dictature léniniste, proche des fondamentaux de la dictature du prolétariat et n'a rien d'une démocratie. Il y a je pense qu'on peut dire autant d'un certain nombre de pays dans le monde qui se parent des vertus ou de l'appellation de démocratie, mais qui n'en ont aucune des caractéristiques. Il se trouve que j'ai connu le bloc soviétique, j'y ai servi en Pologne à l'époque où c'était une démocratie populaire. Eh bien, la démocratie populaire, c'est le fait de rajouter même l'adjectif populaire, c'est la négation même de la démocratie. J'invite peut-être nos auditeurs à lire ce communiqué conjoint, cette déclaration conjointe de Xi Jinping et Poutine en début février.
Début février, avant la guerre en Ukraine,
quelques semaines avant la guerre en Ukraine. Et, donc Poutine était à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Et ils ont signé un communiqué conjoint dans lequel ils se gargarisent. Ils se considèrent, c'est même expressif, verbis dans ce communiqué, nous sommes les champions de la démocratie, de la liberté et de l'état de droit. C'est Orwell dans le texte. Je veux dire, on change le sens des mots. Alors, pour revenir ensuite sur l'Europe de l'Est, la Pologne et la Hongrie, donc Pologne que j'ai bien connue, j'ai assisté au changement de majorité en Pologne en 2015. La Hongrie a été pionnière, la Pologne a suivi. D'ailleurs, le slogan du parti Droit et Justice, aujourd'hui au pouvoir en Pologne, c'était « Bientôt, ça sera, pendant la campagne, ça sera Budapest à Varsovie ». Et ces deux régimes, hein, je crois qu'on peut les appeler ainsi, se sont essayés au pouvoir. Orban, fin des années 90, Kaczynski, donc le PiS, au milieu des années 2000, et ils ont réalisé que, au fond, alors ils étaient élus, donc ils considéraient avoir un mandat du peuple, la légitimité du peuple qui les portait, et ils ont considéré qu'il y avait quelques obstacles. En Pologne, on appelait ça l'impossibilisme juridique. Bon, il y a une constitution, il y a des lois, et puis surtout, il y a un tribunal constitutionnel qui dit, ça, c'est pas conforme à la constitution. Mmh. Et donc, la première chose qu'ils ont faite, alors, dans le cas d'Orban, à partir de 2010, il avait une majorité des deux tiers, il a changé la constitution, il a vidé de toute sa substance le contrôle constitutionnel, il a fait main basse sur les médias publics et ensuite sur les médias privés. Idem en Pologne. Première chose qu'a faite le parti Droit et Justice, c'est de paralyser le contrôle constitutionnel. Alors, pour ensuite faire main basse sur l'appareil judiciaire et les tribunaux, puis sur les médias publics et puis sur les médias privés, et petit à petit, et même parfois très rapidement, revenir sur toutes les libertés qui avaient été acquises chèrement pendant les décennies précédentes.
Le rôle central de la Constitution, on y reviendra bien sûr avec vous, Clémentine Fauconnier, et on approfondira également avec vous, Pierre Bullard. Dans un premier temps, Serge Sûr, dans la revue donc Questions internationales, on a parlé de la Chine. Vous ne mettez pas la Chine et la Russie dans un même chapitre. La Chine, elle est mise dans le chapitre des pouvoirs sans démocratie, au même titre que le Moyen-Orient, l'Iran et Internet. Et la Russie, elle, est regroupée avec l'Amérique latine, la Pologne et la Hongrie, ainsi que l'Afrique du Sud, dans le chapitre intitulé « Les faux-semblants des démocraties autoritaires ». D'après vous, Serge Sûr, des régimes extra-européens, lesquels sont, d'après vous, les plus attentatoires aux libertés ?
Alors d'abord, je rejoins tout à fait ce que disait Pierre sur la Chine. C'est vraiment un pouvoir totalitaire. C'est même plus qu'une dictature, c'est un pouvoir totalitaire. Parce qu'il y a un contrôle, une emprise sur la société qui, je crois, est à peu près sans précédent. Avec y compris la surveillance faciale, avec la notation de la loyauté civique. Enfin, tout ça est un peu sans précédent. Et c'est exactement le monde d'Orwell, en effet. Alors que la Russie, c'est un pouvoir qui, quand même, reste relativement faible. Parce que sa prise sur l'opinion, c'est une dictature. En tout cas, c'est une démocratie autoritaire. Mais sa prise sur l'opinion est sans commune mesure avec celle qu'exerce la Chine sur sa propre population. Puis il y a aussi des raisons culturelles, parce que la tradition chinoise n'est tout de même pas la tradition russe qui a été toujours plus ouverte. Et on sait bien qu'en Russie, il y a une opposition, même si elle n'a pas des canaux pour s'exprimer, même si elle est plus ou moins clandestine, elle existe. Maintenant, pour ce qui est des pouvoirs extérieurs, je crois que le Moyen-Orient reste assez imperméable, en tout cas le monde arabe reste assez imperméable à la démocratie. Parce qu'à partir du moment où vous déclarez que l'islam l'emporte sur la loi civile, que l'islam est en soi une loi civile, vous écartez la démocratie. Vous avez une référence théologique qui est plus ou moins présente, qui est plus ou moins active. Mais enfin, c'est l'arrière-plan. Et l'arrière-plan n'est tout de même pas la démocratie. Et pour le reste, c'est plutôt des atteintes ou des limites de la démocratie qu'il faut parler. En Amérique latine, par exemple, il y a une référence générale à la démocratie. Tout le monde prétend incarner la volonté du peuple. Et j'ajouterais même que les États-Unis, à mon sens, ne sont pas une démocratie politique. C'est une république.
J'allais poser la question.
C'est une république fédérale, ce qui n'est pas la même chose. Et lorsque vous avez un président qui peut être élu par une minorité de la population, ce qui est le cas, lorsque vous avez une chambre dominante qui est le Sénat, et dont tous les États ont la même représentation, c'est-à-dire deux sénateurs par État, et que vous avez des différences de population considérables entre les différents États.
Quelques centaines de milliers dans un, et
voilà,
puis des millions dans l'autre.
Plusieurs dizaines de millions dans d'autres. Enfin, ça n'a rien de démocratique. Lorsque c'est la Cour suprême qui décide de questions comme l'avortement, comme le mariage pour tous, ben, ça n'est pas non plus une formule très démocratique. Et en réalité, les États-Unis, la démocratie existe à la base, mais pas au sommet. C'est-à-dire que les États, chacun des États est plus démocratique que la fédération. Compte tenu du poids qu'a le fédéralisme et qu'ont les compétences des États, j'ajoute qu'il n'y a même pas de corps électoral américain. Ça n'existe pas, le corps électoral américain. Il y a des votes État par État et les règles électorales ne sont pas les mêmes. Chaque État possède sa liste électorale et ses modalités de vote. Donc nous n'avons pas un corps électoral américain qui puisse se prononcer en tant que tel. C'est pourquoi l'idée, par exemple, d'un référendum aux États-Unis est absurde. Il peut y avoir des référendums locaux, des référendums par État membre, mais pas des référendums fédéraux, ce qui est une grande différence avec la Suisse, par exemple. Et donc, à mon sens, les États-Unis ne sont pas une démocratie politique, mais une république fédérale. Il n'empêche que leur idéologie, que leur rhétorique est démocratique, mais c'est la même chose dans un pays comme la France, où la démocratie connaît également ses limites. Parce que la Constitution, alors j'entends bien le contrôle de constitutionnalité, mais la Constitution a été captée par le Conseil constitutionnel. Et que le Conseil constitutionnel puisse déclarer abroger des lois votées par le Parlement, c'est quelque chose qui n'est tout de même pas très démocratique. Là, est-ce qu'il y a une notion supraconstitutionnelle de la démocratie ? Je n'en suis pas convaincu. Pour moi, la démocratie elle réside dans la Constitution. Mais la Constitution, c'est l'affaire du peuple. Ça n'est pas l'affaire du Conseil constitutionnel.
Alors, je poursuis avec la Constitution. Alors, avec vous, Clémentine Fauconnier, il nous reste 2 minutes 30 avant la fin de cette première partie d'émission. On poursuivra, bien sûr, dans la deuxième. Vous le dites, d'abord, parce que l'autoritarisme russe est souvent présenté comme le résultat d'une démocratisation manquée. Vous y voyez plutôt, Clémentine Fauconnier, une restauration autoritaire. Et vous évoquez la notion importante de l'instauration du libéralisme constitutionnel qui doit précéder la massification de la politique.
Alors, qui doit, pas forcément d'après moi, d'après Farid Zakaria, qui a été un des, pas le seul, hein, mais qui a été un des théoriciens de ce qu'on appelle l'illibéralisme, la démocratie libérale. C'est pas le seul à utiliser ce terme, mais en tout cas, il lui a donné un sens, à mon sens, très stimulant, notamment pour parler des pays comme la Russie, qui justement ont commencé dans un premier temps par massifier, c'est-à-dire inviter tous les électeurs à participer à des élections formellement, je dis bien formellement compétitives, donc avec plusieurs candidats, même si ces élections ne sont pas encore tout à fait régulières, elles n'ont jamais tout à fait été dans les années 90. Mais par ailleurs, il dit ce qui est très important, c'est le libéralisme constitutionnel, c'est-à-dire d'avoir avant tout, et avant aussi au sens chronologique, la garantie des libertés civile, la garantie d'institutions qui vont réellement pouvoir se limiter les unes par rapport aux autres, donc dans le vieux principe de séparation des pouvoirs. Et dit Zakaria, l'erreur, entre guillemets, si on peut parler d'erreur, qui a été faite pour beaucoup de démocraties de la troisième vague, c'est d'avoir massifié la politique, donc avoir invité massivement les électeurs à participer, et donc d'arriver à ces phénomènes où justement on a des dirigeants qui sont formellement démocratiquement élus, mais qui, une fois au pouvoir, font ce qu'ils veulent ou abusent de leur pouvoir bien plus qu'on ferait dans un système où on aurait réellement une garantie de séparation des pouvoirs et de contrôle par une cour constitutionnelle, par exemple.
C'est ce que vous appelez la tyrannie de la majorité ?
D'une certaine façon, c'est ce qu'on pourrait l'appeler comme ça, sauf qu'à un certain moment, finalement, le dirigeant, une fois au pouvoir, peut tout à fait s'extraire de la volonté de la majorité, puisque la volonté de la majorité, très vite, elle s'efface. Aujourd'hui, la question de la popularité de Poutine ou de savoir si vraiment il y a une majorité de la population qui le soutient, on n'a plus les moyens de le savoir. Donc la tyrannie de la majorité s'efface derrière la tyrannie d'un seul ou en tout cas d'un groupe au pouvoir.
Parce qu'il sera intéressant. Oui, ça, je suis sûr.
Oui, sur cette idée qu'il y a des démocraties d'apparence, et puis en réalité, il y a un pouvoir autoritaire. Il y a un ouvrage qui a été publié en 1864, donc ça n'est pas hier, mais qui est toujours, à mon avis, d'une grande actualité. C'est un ouvrage de Maurice Joly, qui s'intitule « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Il montre comment, derrière une façade de séparation des pouvoirs, de libéralisme, eh bien, il y a un pouvoir qui contrôle tout. Pierre parlait du contrôle des médias, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait important et c'est un des instruments de cela.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Serge Sûr, avec Clémentine Fauconnier et Pierre Buller, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les démocraties. Nous retrouvons nos invités, Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace et rattachée au laboratoire Société Acteurs Gouvernement en Europe. Pierre Buller, diplomate, ancien ambassadeur de France en Pologne entre 2012 et 2016. Et Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales, professeur émérite de l'Université Panthéon Assas et rédacteur en chef de la revue Questions internationales consacrée aux démocraties sous le titre Les démocraties à l'épreuve. Pierre Buller, vous avez tout un chapitre sur la Hongrie et la Pologne. On en a un petit peu parlé dans la première partie de l'émission. La relation, vous le dites, de la Hongrie et de la Pologne à l'Union européenne, elle est tout à fait particulière. Vous reprenez ce propos de Viktor Orban, le leader hongrois, pour qui, sur un ton de plaisanterie, il s'agissait de voler des chevaux à l'écurie européenne. Ce qui est en cause, c'est la nature même de la démarche des dirigeants polonais et hongrois.
Oui, je pense qu'ils ont. Ces pays ont voulu adhérer très vite, rejoindre au fond ce qu'ils voyaient la modernité comme la modernité occidentale et ont souhaité, dans le sillage de la fin de la guerre froide et de l'attrait qu'ils éprouvaient pour le modèle occidental, ils n'ont eu de cesse de rejoindre les institutions occidentales, Union européenne et OTAN également. Bon, ça s'est passé dans un contexte assez chaotique, disons, de réformes économiques libérales qui a produit des laissés-pour-compte sur le chemin et qui ont, au fond, un peu fait le lit de cette mouvance populiste qui n'était pas aux affaires immédiatement, mais qui n'y est venue que plus tard. Lorsque, bon, déjà, les deux pays avaient adhéré en 2004 à l'Union européenne. Et donc, ils ont signé les traités de l'Union européenne. Ils ont également participé à la négociation du traité actuellement en vigueur, qui est le traité de Lisbonne. Ils ont introduit d'ailleurs des exemptions sur certaines politiques. La Pologne, notamment, a obtenu ce qu'on appelle un opt-out sur le droit de la famille et la moralité publique. Donc tout ça a été parfaitement négocié. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que justement, comme cet impossibilisme légal les gênait, ils se sont mis à démonter l'état de droit dans leur pays. Orban a commencé. Kaczynski avait essayé entre 2005 et 2007, et s'est ensuite repris avec une majorité beaucoup plus forte. Et c'est là qu'ils sont entrés en conflit avec les institutions de l'Union européenne qui ont réalisé qu'au fond, ils s'éloignaient, ils dérivaient par rapport aux obligations qu'ils avaient contractées en signant ce traité. Mmh. Et notamment, dans le cas de la Pologne, l'indépendance de la justice, je le mentionnais tout à l'heure, la mainmise sur tout le dispositif de contrôle constitutionnel, mais sur l'ensemble de l'appareil judiciaire qui devient une dépendance, voilà, Montesquieu est là démenti, il n'y a pas de séparation des pouvoirs et ça, c'est totalement contraire au traité de Lisbonne. Donc la Commission, d'abord le Conseil européen s'en est emparé, a lancé une procédure, je n'entre pas dans les détails, la procédure de l'article 7, mais qui ne peut avoir des conséquences que si tous les États, enfin, par consensus de tous les États, donc des 26 sur les 27, bon, la Hongrie avait dit d'entrée de jeu qu'elle ne souscrirait pas à une mise en cause de la Pologne. Donc cette procédure ne marchait pas. Ensuite, la Commission a trouvé une autre modalité qui est celle de la rétention des fonds du budget ordinaire, mais aussi des budgets extraordinaires, du plan de relance, tant que la situation ne serait pas réglée pour ce qui est de l'état de droit. Parce que l'argent européen ne peut pas être dépensé, en tout cas avec toutes les garanties nécessaires, dans un pays qui ne respecte pas les règles de l'état de droit. Il n'y a pas de contrôle sur l'utilisation, ou si ce contrôle est effectué par un appareil judiciaire, ils ont corrompu, pas corrompu au sens monétaire du terme, mais au sens politique du terme, il n'y a plus de garantie de bonne utilisation des fonds. Et voilà où nous en sommes avec la Hongrie et avec la Pologne. Il y a un an, Ursula von der Leyen, au Parlement européen, a tenu des propos extrêmement fermes pour dire qu'elle ne laisserait pas l'état de droit se disloquer en Pologne.
Serge Sûr, est-ce que on peut parler d'affaiblissement de l'attrait pour la démocratie ou l'attirance vers la démocratie, ou bien est-ce qu'il faut ouvrir les yeux sur, et sans paranoïa, mais un projet politique contre la démocratie ?
Tout dépend des pays en question. Mais alors, je voudrais peut-être faire deux remarques à propos d'une part de l'état de droit, d'autre part du populisme. Parce qu'on oppose souvent la démocratie et le populisme. L'état de droit et la démocratie sont deux notions différentes. On les associe volontiers, mais en réalité, c'est deux notions différentes. Et ça se traduit, par exemple, par le problème du contrôle de constitutionnalité. Si on est démocrate, on va dire que c'est le Parlement qui exprime la volonté du peuple. En conséquence de quoi, le contrôle de constitutionnalité doit être limité. Par exemple, le Conseil ne va pas apprécier la proportionnalité d'une loi par rapport à je ne sais quoi. Le Parlement est tout de même suffisamment capable de le faire lui-même. Si en revanche on est partisan de l'état de droit, on dira eh bien le Conseil constitutionnel ou telle cour constitutionnelle doit avoir toujours le dernier mot, y compris sur la volonté populaire. Et donc l'état de droit, c'est une forme de totalitarisme juridique. Le droit doit avoir des limites, et ces limites, c'est celle de la décision politique. Qui prend la décision politique ? Dans une démocratie, ce sont les représentants du peuple. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, c'est sur le populisme. On nous dit, et on le répète par exemple en France depuis 2005, depuis l'échec du référendum, que le danger pour la démocratie, c'est le populisme. Mais en réalité, le populisme, il naît des carences ou des limites de la représentation. C'est parce que la représentation est considérée par le peuple comme insuffisante, qu'elle ne répond pas à ce qu'il souhaite profondément, qu'il s'en détourne et qu'il est tenté de recourir à des formules qui ne sont peut-être pas tellement démocratiques, mais qui résultent d'un affaiblissement de la représentation. Et il faut bien reconnaître que, entre la gauche et la droite, la gauche a un petit peu tendance à mépriser le peuple et la droite à le haïr. Et ça n'est pas très bon. Lorsque vous avez d'une part une gauche qui est condescendante à l'égard du peuple et puis une droite qui s'efforce autant que possible de contourner le peuple, il n'est pas étonnant que le peuple s'en détourne à son tour. Et donc le populisme est un symptôme de l'insuffisance de la représentation. Et dans ces conditions, si on veut éviter les formules extrêmes que cela représente, eh bien, il faut améliorer la qualité de la représentation et peut-être aussi améliorer la qualité du personnel politique. Parce que c'est un des problèmes pour la démocratie, que l'affaiblissement du personnel politique. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avions des générations qui avaient été éprouvées par la guerre et qui donc avaient une certaine solidité intellectuelle et morale. Depuis quelques décennies, et notamment depuis 89, depuis la chute du mur de Berlin, on a le sentiment qu'on a triomphé et que donc tout va aller bien. Et du coup, il en résulte une espèce d'amollissement moral et politique auquel nous sommes maintenant confrontés. Donc moi, je mets en cause dans la démocratie la qualité du personnel politique.
Clémentine Fauconnier, vous souhaitez rajouter quelque chose et peut-être nous parler de la Russie. Vous avez lancé une idée tout à l'heure à propos de l'opposition, de la société civile, etc. Et finalement, j'ai cette question, mais qui est valable pour d'autres pays en dehors de la Russie. Est-ce que le recul de la démocratie ou le maintien dans un régime autoritaire ou totalitaire ou illibéral, après ça, mais c'est important de souligner cette variété, finalement n'est pas le résultat aussi d'une atonie alors intellectuel ou en tout cas peut-être un manque de réactivité et de manque de mobilisation aussi des sociétés civiles.
Alors, atonie, si je pars de l'exemple russe, atonie intellectuelle, c'est une question qui est extrêmement compliquée parce qu'elle est très fortement investie aussi par les pouvoirs comme argument de légitimation. En Russie, vous tomberez très souvent sur ce type de discours de dire « mais de toute façon, la population est démobilisée, elle ne s'intéresse pas à la politique. Tout ce qui l'intéresse, c'est finalement avant tout de garantir des conditions de vie matérielle à peu près confortables. » Alors, sur cette première chose, il faudrait revenir sur ce qui s'est passé dans les années 90. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu une triple transition. Et avec une transition économique et sociale extrêmement violente, qui a très vite dévoyé finalement l'idée de démocratie. Puisque pour une grande partie de la population, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est certes formellement le droit d'aller voter, mais surtout une sensation de très grand déclassement social, de difficultés économiques, de peur du lendemain, que l'on vivait beaucoup moins à l'époque soviétique. Et donc c'est pour ça que je dirais comme projet alternatif, entre guillemets, à la démocratie, très vite, Vladimir Poutine a réussi à surfer quand il est arrivé au pouvoir en 2000 sur l'idée, certes, vous continuez à aller voter, mais il y a quand même une répression de plus en plus forte sur les mouvements d'opposition, sur les médias, notamment la télévision. Mais en échange, je vous garantis une certaine tranquillité matérielle au quotidien. C'était ça, je dirais d'une certaine façon, la base du contrat social entre Vladimir Poutine et une partie de la population, avec, je pense, pour le coup, une réelle assise parmi une partie de l'électorat. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la population russe, en tout cas une partie d'entre elles, est extrêmement active. Dans les années 90, il y avait avait une réelle ébullition, il y avait énormément d'activités, la liberté était prise à bras-le-corps, avec certes des institutions qui étaient toutes neuves et donc une très grande fragmentation partisane, par exemple, et donc tout ça avait du mal à s'organiser, mais il y avait une réelle activité. Dans les années 2000, les années 2010, on a bien vu, donc, dans un contexte de répression beaucoup plus importante, qu'il était plus difficile pour la population de s'exprimer, mais Internet a été très libre très longtemps. Les dirigeants russes ont dû attendre 2012 pour se rendre compte qu'il se passait des choses sur Internet. Et l'Internet russe était très libre, très actif. Alors bien sûr, ce n'était pas toute la population. C'était la population la plus éduquée, la plus urbaine, souvent aussi la plus jeune. Bref, ce n'était pas la majorité absolue de la population, mais il y a toujours eu une activité importante dans un contexte qui quand même devenait aussi par ailleurs de plus en plus contraint. Enfin, dernier argument aussi pour quand même relativiser cet argument de la démobilisation populaire, deux choses. Déjà, on repère quand même une certaine activité des mouvements sociaux qui parfois peinent à se politiser, mais qui néanmoins existent réellement avec des grèves très nombreuses, des mobilisations écologiques, des mobilisations de conducteurs. En 2018, en pleine Coupe du monde de football, on a eu quand même aussi une très grande mobilisation contre la réforme des retraites. Donc on a une société qui est très active, mais simplement une activité qui passe un petit peu sous les radars, je dirais, de la façon dont on peut nous la voir en Occident et qu'évidemment le pouvoir russe n'a pas du tout envie de mettre en valeur, parce qu'elle ne s'exprime pas dans les termes politisés, parce qu'elle est assez peu associée aux partis politiques et donc on la voit un petit peu moins, mais elle existe bel et bien. Et puis pour finir quand même, on n'a pas encore parlé de l'opposant Navalny qui est en prison maintenant depuis un certain temps, mais ce qui est intéressant dans le phénomène de Navalny, c'est qu'il a réussi à comprendre comment arriver à faire émerger un début d'opposition, voire un tout petit peu à fragiliser le régime, un tout petit peu, en comprenant comment il fallait jouer des contraintes qui existaient, des contraintes qui sont énormes quand même. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de s'opposer, ça demande un courage très important, on le voit dans d'autres contextes autoritaires. Et ce qui était intéressant chez Navalny, justement, c'était sa capacité à utiliser Internet, à utiliser ce qu'il appelait le vote intelligent, qui était une sorte de vote sanction et qui visait donc à appeler les électeurs à voter pour n'importe quel parti, sauf celui qui soutenait Vladimir Poutine, et avec quand même des résultats. Et donc ce qui est intéressant, c'est un peu une question d'offre et de demande, c'est-à-dire que quand vous avez une offre en termes d'opposition qui propose des stratégies, qui fait l'effort de se déplacer à travers tout le territoire russe, et éventuellement aussi de s'appuyer sur tous ces mouvements sociaux dont j'ai parlé à l'instant, et bien dans ces cas-là, on voyait que ça commençait à bouger, et avec une réaction très inquiète et très violente de la part du Kremlin. C'est bien donc qu'il y a potentiellement, je dirais, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour avoir, je dirais, au moins une opposition, voire une remise en cause du système Poutine, simplement dans un contexte qui est très très contraint et qui là, évidemment, avec la guerre, aujourd'hui, l'est encore plus, qui fait diminuer les possibilités d'un changement dans l'immédiat, si ce n'est une sorte d'effondrement, mais ça, on verra bien.
Alors, système peut-être moins contraint, Pierre Buller, en Hongrie et en Pologne, avec là aussi, question des sociétés très actives.
Si vous me le permettez, Marie-France, je voudrais exprimer un point de désaccord avec Serge Sûr sur l'état de droit. Pour moi, l'état de droit n'est pas une camisole illégitime et encore moins totalitaire. Il y a la loi constitutionnelle a été votée dans un cadre parfois plus strict qu'une loi ordinaire et c'est le cadre dans lequel doit s'exercer dans une démocratie, enfin en tout cas tel que je l'entends, s'exercer l'action politique et la volonté du peuple avec tous les garde-fous et tous les mécanismes de rappel qui évitent précisément ce dont nous sommes les témoins partout dans le monde. Enfin, nous sommes quand même dans un cycle de régression démocratique extrêmement préoccupant. Ça me rappelle un peu le propos d'André Laniel au début des années 80, qui était donc la majorité socialiste de l'époque, qui s'adressait à la minorité. Il disait-il, vous avez juridiquement tort car vous êtes politiquement minoritaire. Et je pense que ça n'est pas l'esprit de la démocratie. Et certainement, on peut trouver beaucoup de défauts à la démocratie. Et la crise de la représentation qu'on constate aujourd'hui fait certainement le lit du populisme. Ce n'est pas pour autant qu'on doit disqualifier ou discréditer les mécanismes qui l'encadrent. Voilà ce que je souhaitais dire, peut-être.
En réponse à ce qu'avait dit Serge Sûr.
Pourquoi je vais répondre
pour ce qui est des sociétés civiles sont effectivement très actives en Pologne, un peu moins en Hongrie, encore qu'on assiste à beaucoup de manifestations aujourd'hui, mais sur des thématiques beaucoup plus précises. Mais elles restent dans l'incapacité parce que, bon, elles respectent aussi, enfin, elles s'inscrivent dans un cadre, disons, légal de l'action politique. La seule façon d'inscrire sa contestation dans de l'action politique, dans du droit positif, c'est de prendre le pouvoir. Alors, prochaine élection en 2023 en Pologne, celle de les élections en Hongrie ont eu lieu au début de au printemps, ont donné une majorité à nouveau très forte à Viktor Orban, qui s'en sert pour imposer au fond sa vision et tenir en marge ces protestations des sociétés civiles. Ça se passe, je dirais, dans un cadre encore légal. Il n'y a pas de répression, il n'y a pas de prisonniers politiques comme en Russie ou ailleurs. Mais bon, c'est un combat, je dirais, encore classique. Ce qui est plus problématique, ce sont toutes les atteintes aux libertés auxquelles se sont engagés ces deux pays en souscrivant, en signant le traité de Lisbonne et en signant la charte européenne des droits fondamentaux, qui font partie intégrante du traité de Lisbonne.
Alors, je vais vous donner la parole, Serge Sûr, mais je m'aimerais bien aussi que, avant la fin de l'émission, on puisse répondre à la question. On a bien noté le cycle de régression démocratique. Et finalement, quelle est la part de l'hostilité à l'Occident comme ciment des régimes autoritaires, Serge Sûr?
Très brièvement, je vais dire que je suis d'accord avec Pierre. Nous sommes en d'accord. Parce que la formule de Léniel, on lui a beaucoup reproché, mais malheureusement, elle est exacte. Parce que regardez, par exemple, aux États-Unis, à partir du moment où il y a une majorité à la Cour suprême pour déclarer que l'avortement ne relevait pas de la Constitution, mais du droit des États, eh bien, tout le monde savait que la Cour suprême allait renverser sa jurisprudence. Elle l'a renversée parce que la majorité politique avait changé au sein de la Cour suprême. Et il en est de même au Conseil constitutionnel dans ses conditions de nomination. Lorsque, en 81, le Conseil constitutionnel a déclaré que les conditions d'indemnisation des nationalisations n'étaient pas justes, d'où est-ce qu'il tirait ça? Quelle disposition constitutionnelle lui permettait de dire ça? C'était franchement une acrobatie, parce que la Constitution, il faut l'interpréter. Et l'interprétation est une notion politique. Et seul, normalement, le peuple devrait pouvoir le faire. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'interprétation par référendum. Mais une Cour suprême, il faut qu'elle ait des pouvoirs, mais limités.
Alors, je vais laisser à Clémentine Fauconnier le choix, non, la place pour répondre à la question de la démocratie et de l'hostilité à l'Occident comme ciment des régimes autoritaires.
En effet, et ça c'est très important pour comprendre en tout cas pour la Russie le tournant des années 2000, et ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Vladimir Poutine, je dirais, a utilisé comme ressource de légitimation la période très difficile, ça c'est une réalité pour la plupart des Russes des années 90, il a aussi associé la démocratie à une sorte d'injonction occidentale malhonnête, avec un certain succès, c'est-à-dire de dire finalement les Occidentaux, en voulant démocratiser et en se mêlant, en s'ingérant dans nos affaires, en voulant nous imposer des institutions, avait avant tout des intérêts, c'était de nous affaiblir économiquement et géopolitiquement. Et donc il y a une association, c'est vrai, assez étroite entre les exigences démocratiques et je dirais libérales aussi, ça c'est très important, et le rejet de l'Occident. Et d'ailleurs ça se voit aussi beaucoup dans les discours qui sont tenus par les dirigeants russes, y compris ceux qui entourent Vladimir Poutine, le Parti Russie Unie, c'est-à-dire c'est associé aussi à une forme de droitisation des valeurs, c'est-à-dire le recours aux valeurs traditionnelles qui sont vues, et dans lesquelles s'engouffrent aussi d'autres systèmes et libéraux aujourd'hui. Donc, le fait d'écrire noir sur blanc dans la Constitution, c'est maintenant le cas depuis 2020, que le mariage ne peut être qu'entre un homme et une femme. En Russie, c'est un peu plus lent, mais ça se voit dans les discours, un début de remise en cause du droit à l'IVG. En Russie, c'est beaucoup plus lent que dans d'autres contextes, mais on retrouve ça aussi. Des références très, je dirais, très, très, très superficielles, qui ne sont pas du tout liées à des pratiques de la population, mais des références quand même de plus en plus nombreuses à la religion. Bref, des références aux valeurs traditionnelles et qui sont présentées comme un retour aux fondamentaux par opposition à un Occident, et je précise, un Occident libéral, qui serait présenté comme ayant perdu ses valeurs. Voilà. Et de dire, et ça va dans le discours aussi, Vladimir Poutine parle beaucoup en ce moment, il en parlait déjà depuis longtemps, d'un mode post-occidental. Il dit, voilà, en fait, c'est l'Occident aujourd'hui qui est marginalisé, c'est l'Occident qui est isolé. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont perdu le lien avec leurs valeurs fondamentales. Et c'est ça, nous, Russes, pour la majorité orthodoxe, qui nous permet de dialoguer avec des populations très différentes autour, justement, de ces valeurs partagées, même si elles sont culturellement différentes.
Alors, la question religieuse, j'avais prévu de l'évoquer. Serge Sûr en a dit quelques mots à propos de l'islam. Il y avait aussi les évangéliques. Ce sera probablement l'occasion d'une autre émission. Clémentine Fauconnier, merci. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace et rattachée au laboratoire Société Acteurs Gouvernement en Europe. Pierre Buller, diplomate, ancien ambassadeur de France en Pologne entre 2012 et 2016. Et Serge sûr, membre de l'Académie des sciences morales et professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas et rédacteur en chef de la revue Questions internationales qui vous rassemblait donc aujourd'hui sous le titre Les démocraties à l'épreuve. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de l'Inde. À demain.